Voilà, nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te glorifions pour ton Saint-Esprit, comme nous l'avons dit tous ensemble. Merci pour cet Esprit. Il est en nous et il est là maintenant au milieu de nous. Et c'est aussi par cet Esprit que nous voulons être pris en charge au moment, Seigneur, de vouloir t'écouter dans ta parole. Donc nous te demandons, Seigneur, de permettre à chacun de nos cœurs d'être disponible et réceptif au Saint-Esprit, afin de t'entendre pleinement et afin d'apprendre, comme le dit ce chant, à te servir, apprendre à t'obéir, apprendre à te plaire, apprendre à être tes témoins, apprendre à voir les choses comme tu les vois, apprendre à être toujours plus proche de toi. Seigneur, nous te demandons que ton Esprit nous aide à comprendre les Saintes Écritures, mais bien plus que ton Esprit nous aide à comprendre ta pensée, afin que nous soyons de ces disciples, justement, qui marchent selon ta volonté. Seigneur, qui marchent éclairés par ton Saint-Esprit. Nous nous remettons à toi, Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, puisse vraiment être honorée et respectée dans ces instants. Amen. Nous allons faire deux lectures ce matin. La première lecture est une lecture qui est semblable à celle de la semaine passée, dans Jérémie chapitre 9, chapitre 2, versets 9 à 13. Jérémie chapitre 2, versets 9 à 13. Et là, il est écrit: c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez épouvantés, étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Le deuxième passage, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, chapitre 1er, donc versets 18 à 32. Romains chapitre 1er, versets 18 à 32, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. La semaine dernière, pour ceux qui se souviennent, nous nous étions arrêtés sur Jérémie chapitre 2, verset 11, qui est un verset qui nous parle d'un drame. Vous vous souvenez peut-être du drame dont il est question dans Jérémie chapitre 2, verset 11. C'est un drame que Dieu constate. Donc Dieu, du haut des cieux, constate un drame qui se déroule sur la terre. Et Dieu même, rappelez-vous, appelle les cieux et la terre comme témoins de ce drame. Et ce drame, c'est lequel ? C'est que Dieu découvre que les hommes ont préféré l'abandonner, lui, la source d'eau vive, pour se faire ce qu'il appelle des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Donc Dieu voit les humains du haut du ciel et il se rend compte que les humains l'ont abandonné et l'ont remplacé par autre chose, par d'autres choses qu'il appelle des citernes crevassées, c'est-à-dire des citernes qui ne retiennent pas l'eau, des citernes qui en rien ne peuvent être à la hauteur de ce qu'il est. Dieu s'afflige de ce que les hommes le laissent tomber pour le remplacer par d'autres choses. Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que c'est une tendance que nous avons, nous les humains, de vouloir remplacer Dieu. Nous cherchons des choses, des réalités, des situations qui remplacent Dieu pour nous. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer Dieu dans le cœur des humains. Mais dans notre société contemporaine, il y a une chose en particulier qui remplace Dieu dans le cœur des humains. Il y a un personnage qui remplace Dieu dans le cœur des humains de notre société contemporaine. Et ce personnage, c'est l'homme lui-même. Dans notre société, l'homme remplace Dieu. Ou pour le dire autrement, l'homme est devenu son propre Dieu. Et cela nous amène à une thématique importante que nous allons aborder aujourd'hui. C'est la question de l'importance et de la prégnance de dans notre monde de ce qu'on appelle l'humanisme athée. L'humanisme athée. Alors, il faut bien faire un petit peu d'histoire pour voir un petit peu de quoi on parle, brièvement. Alors, l'humanisme, tout d'abord, c'est un courant intellectuel, un courant culturel du XVIe siècle, du temps de la Renaissance, pour ceux qui se souviennent de leur petit cours d'histoire. Vous vous souvenez hein, de la ligne du temps avec l'Antiquité, et puis il fallait faire des petits traits. Et à l'époque de la Renaissance, il y a tout un ensemble de penseurs qui ont commencé à vouloir redécouvrir les textes de l'Antiquité, tout simplement. Les textes d'Aristote, de Platon et ce genre de choses. Et ils avaient vraiment envie de retourner à découvrir ce qu'était la civilisation romaine. Et ces penseurs vont revenir à ces textes, ils vont les relire, les redécouvrir. Et notamment, ils vont avoir à cœur de travailler la question de la valorisation de l'homme. Mais à l'époque, ces lectures qu'ils faisaient, ces réflexions qu'ils avaient, les amenaient, si vous voulez, à continuer à rester dans le champ de la foi chrétienne. C'était simplement, on peut dire, juxtaposer la foi avec les écrits gréco-romains. Et plus tard, il y arrive une autre époque qui, en fait, est distincte, mais qui s'appuie sur la première époque, c'est le siècle des Lumières. Alors, vous connaissez certainement cela, le siècle des Lumières. Et les Lumières vont progressivement défendre une conception de l'humain dans lequel l'homme va s'appuyer sur sa propre raison pour se déterminer lui-même. Les Lumières vont lancer un courant philosophique dans lequel on va considérer que l'homme doit être au centre de toute chose. On ne doit plus se rapporter à la religion, comme à l'époque médiévale. On ne doit plus essayer de comprendre le monde en s'appuyant sur la foi. On ne doit plus essayer de comprendre le monde en se demandant ce que Dieu veut pour le monde. L'homme doit réfléchir lui-même à ce qu'il veut, l'homme doit réfléchir lui-même à ce qu'il pense, et l'homme doit construire lui-même le monde qui lui convient. Et il y a une grande formule qui résume un petit peu cet humanisme athée, qui est une formule très ancienne, mais qui est « l'homme est la mesure de toute chose ». Donc l'humanisme athée va rejeter le fait que l'homme doit se référer à Dieu pour sa vie, mais va considérer que l'homme doit être la mesure de toute chose. Donc c'est l'homme qui doit mesurer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est l'homme qui doit déterminer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce n'est plus Dieu qui est le centre du monde, c'est l'homme maintenant, ses besoins, sa volonté, sa conception, sa raison qui doit être au centre de toute chose. Et cela va même propager et être quelque chose qui va être un soutien à la Révolution française. La fameuse Révolution française qu'on connaît, où on va mettre de côté beaucoup de choses qui étaient très mauvaises d'ailleurs, elle n'a pas que des mauvais points, la Révolution française, mais ça va être beaucoup fondé là-dessus, sur cette idée qu'on veut on veut pouvoir penser le monde en se détachant de Dieu. À l'époque, l'Église avait la main sur tout, sur chaque aspect de la vie des hommes. Et on va se dire finalement qu'on en a ras-le-bol et qu'on voudrait que l'homme puisse avoir sa propre pensée, avoir sa liberté de penser, sa liberté de conception, la liberté dans les valeurs, la liberté dans les normes que l'on a. Si vous allez sur le Centre d'Action Laïque, sur le site du Centre d'Action Laïque, vous allez trouver cette définition. L'humanisme laïque est une philosophie de vie, une éthique de pensée. Elle assume la primauté de l'humain sur le surnaturel. Elle dit conscience là où d'autres disent Dieu. L'humanisme ne compte que sur l'être humain dans sa vie terrestre pour assurer son bonheur et son évolution. L'humanisme ne compte que sur l'être humain dans sa vie terrestre pour assurer son bonheur et son évolution. L'homme va trouver les propres moyens de son bonheur. L'homme va trouver les propres moyens de son évolution. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour cela. Nous n'avons pas besoin d'une conscience extérieure, d'une loi extérieure. Notre conscience, à nous les humains, va nous aider à définir ce qui est bon et ce qui est juste. L'humanisme met au-dessus de toute chose l'homme et les valeurs humaines et tout le reste va derrière. Alors il faut être très très juste, très 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 juste. L'humanisme a participé grandement à la progression de notre humanité. Nous devons beaucoup à l'humanisme. Parce que l'humanisme a poussé beaucoup au progrès humain, au développement des connaissances scientifiques, à la recherche, à la curiosité, à la créativité, aux nouvelles technologies. Donc l'humanisme, nous lui devons beaucoup. Nous devons beaucoup à ce courant qui a amené beaucoup de choses positives. Le problème, c'est cet humanisme athée qui veut tout construire sans Dieu. Un humanisme qui rejette Dieu, qui tue Dieu et qui met l'homme sur son trône. Et comme chrétiens, nous ne sommes pas, si vous voulez, dans une bulle, nous sommes aussi influencés par cet environnement ambiant, si vous voulez, qui veut remettre Dieu dans une cage bien loin des humains. Et très souvent, nous avons l'impression que l'humanisme athée libère l'homme. Parce que l'homme est libre de toutes ces histoires de Dieu, l'homme est libre de toutes ces valeurs qui viennent de Dieu. Mais en réalité, l'humanisme athée fait du mal à l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il met de côté l'importance de la relation entre Dieu et l'homme. Les hommes ne se questionnent plus sur leur relation avec Dieu. Les hommes ne s'interrogent plus sur la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. L'humanisme athée met de côté l'importance qu'il y a pour l'homme de s'interroger sur ce que Dieu a à lui dire, pour sa propre vie et pour son bonheur. L'humanisme athée amène l'homme à se référer à lui-même et à ne plus se référer à son Créateur. Et aussi, l'humanisme athée pousse l'homme à ne plus s'intéresser qu'à sa vie sur la terre. Tout ce qui compte, c'est la terre. Tout ce qui compte, ce sont les 80 années de vie qui me sont données. Et je ne m'intéresse qu'à ça. je vais complètement me désintéresser de ma destinée éternelle parce que le monde s'arrête et se clôture à ma petite existence, à mon corps, à mes biens, à ma famille. Ça, c'est ma vie et mon énergie est focalisée là-dessus et je ne m'interroge même plus sur ce qu'il y a avant la vie et sur ce qu'il y a après la mort. Ça ne m'intéresse pas. Et nous vivons dans une société dans laquelle plein de gens ne se posent même pas la question. Beaucoup de gens disent qu'ils sont athées, ils ne se sont jamais arrêtés 30 secondes pour se demander, finalement, y a-t-il une vie après la mort ? Normalement, quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui a réfléchi à la question, qui a respecté, quelqu'un qui a réfléchi à la question, qui a dit, ben oui, j'ai réfléchi, j'ai lu, et je pense que... La majorité des gens dans notre monde ne se posent même pas la question. Parce que l'environnement dans lequel on est, la philosophie dans laquelle on est, nous dit que cette question est inintéressante et qu'il est bien mieux de nous intéresser à notre petite vie sur Terre. En réalité, cet humanisme athée, il nous arrache à nos racines en Dieu. Et cela nous influence de plein de façons. Alors, quels sont, par exemple, certains effets de cet humanisme athée? Premièrement, la valorisation ou la survalorisation des besoins de l'homme, des besoins et des envies de l'homme. Aujourd'hui, on entend autour de nous toutes sortes de discours qui s'orientent vers le fait de privilégier coûte que coûte les besoins de l'homme, les tendances de l'homme, les envies de l'homme, les sensibilités de l'homme. En d'autres termes, on va essayer à tout prix que ce que l'homme a envie de faire, que ce que l'homme veut faire, que ce que l'homme pense faire, puisse se faire et qu'on va soutenir de toutes les façons les tendances de l'homme. En d'autres termes, ce qui compte, c'est tes besoins. Ce qui compte, c'est ton bien-être. Ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Ce qui compte, c'est que tu fasses ce qu'il y a dans ton cœur et tu seras heureux comme ça en suivant ce qu'il y a dans ton cœur. Et par plein de façons, on essaye de mettre au cœur et de nous mettre en tête que nos besoins, nos envies sont justes et qu'elles doivent être au cœur de notre vie. Par exemple, pour l'instant, vous l'avez certainement vu encore cette semaine sur RTL Info, que vous avez certainement certains sur vos téléphones. Cette semaine encore, on nous a sorti un article qui pose la question de savoir est-ce que l'être humain est fait pour être fidèle toute sa vie ? Donc ça n'arrête pas pour l'instant. Il y a plein d'études scientifiques qui se lèvent pour montrer qu'en fait, un être humain ne peut pas vivre toute sa vie avec une seule personne. Nous ne sommes pas faits pour ça. Vous connaissez les animaux. Les animaux, ils peuvent s'accoupler à gauche, à droite. Regardez, tapez ça. Parce que vous allez... C'est vrai, Priscilla, ce que je dis là. Parce que tu me regardes comme pour dire, il raconte... Recherchez, vous allez voir. Il y a plein d'études scientifiques là-dessus qui soutiennent que ce n'est pas possible pour l'homme. L'homme ne sait pas. L'homme, l'être humain, évidemment. L'être humain ne sait pas. L'être humain a besoin. Nous sommes programmés pour pouvoir voyager dans différentes relations affectives et sexuelles. C'est très bien, toutes ces études scientifiques. Mais qu'est-ce que ça encourage? Ça encourage l'homme à suivre ses propres tendances. Ça encourage l'homme à mettre ses besoins devant. Alors que la parole de Dieu nous montre que nos envies peuvent parfois nous détruire. C'est pas parce que j'ai envie de quelque chose. C'est pas parce que ça me fait du bien que c'est bon pour moi. Et peut-être que j'ai un désir, une pulsion, une envie, mais que cette pulsion, elle va détruire ma vie. Et donc, mon bien-être ne doit pas être ce qui guide ma vie, mais c'est ce que Dieu dit qui est bon pour moi, qui doit guider ma vie. On nous sort l'idée que les envies de l'homme doivent être validées à tout prix, alors que la parole de Dieu nous montre que nos envies, au contraire, doivent être crucifiées. Pas toutes nos envies, évidemment. L'envie de manger des bonbons, c'est très bien. Si, c'est bien. L'envie de manger un bon petit Snickers, c'est bien. Mais tous nos mauvais désirs, toute la méchanceté qu'il y a dans nos cœurs, toute la dureté qu'il y a en nous, la Bible me dit que je dois crucifier ça et pas mettre en valeur, et pas enjoliver. Et même si je sens que cette chose que je vais faire va me faire du bien, eh bien ce bien, c'est un bien temporaire parce que c'est un bien qui finalement va me détruire. Nous sommes dans un monde qui met au cœur nos besoins, nos envies. Et ça nous conduit notamment à une société dans laquelle le plaisir, notre plaisir, est au cœur de toute chose. Et la Bible parle de cela, même en parlant de chrétiens. Là, c'est en parlant de chrétiens dans Philippiens. Il est dit de certains chrétiens, ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, ce n'est pas seulement la nourriture, mais ils ont pour Dieu, c'est leurs envies. Tes envies guident ta vie, tes désirs guident ta vie. Dans un autre texte, il est dit que dans la fin des temps, dans les temps que nous vivons, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous mettrons le plaisir au cœur de toute chose. Et vous avez vu dans le texte de Romains chapitre 1, il est dit que Dieu les a livrés à leur convoitise. Comme ils ont mis devant eux, au cœur de leur vie, leur convoitise, Dieu les a livrés à leur convoitise. Parce que nous pensons que ce que nous voulons est nécessairement bon. Comme au jardin d'Éden, je veux manger de ce fruit. Je vois qu'il est bon, je vois que ça va être bien pour moi. Et donc, ça, c'est mon besoin, c'est mon envie, je le mets en avant. Et finalement, ça nous détruit. Cet humanisme nous vend, évidemment, quelque chose de flamboyant. Mais derrière cela, il tue beaucoup de vies, beaucoup de cœurs, qui feraient mieux de se mettre à l'écoute de ce que Jésus a à nous dire. Deuxièmement, cet humanisme athée nous propose un relativisme. Alors le relativisme, c'est pas très compliqué, faut pas faire des grandes études pour savoir ce que c'est. Le relativisme, c'est l'idée que chacun a sa propre vérité et que chacun peut se construire une vérité qui lui convient. En d'autres termes, cette philosophie nous dit quoi ? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de choses qui sont en soi bien ou mal. Il n'y a pas de choses qui sont vraies ou pas vraies. Il y a ce qui est vrai pour toi, qui n'est peut-être pas vrai pour l'autre. Chacun a le droit de se trouver sa propre vérité et de vivre avec sa propre vérité. La vérité, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Personne ne peut te dire ce qu'est la vérité. C'est toi qui dois trouver ta vérité. Tu crois que Dieu existe ? C'est ta vérité. Toi, tu crois pas ? C'est ta vérité. Tu crois que c'est bien ? C'est ta vérité. Tu crois que c'est pas bien ? C'est ta vérité. La vérité est en nous. Alors que la parole de Dieu nous enseigne à faire attention à ce que nous pensons être la vérité. Il y a d'ailleurs ce verset qui nous dit dans Proverbes, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » La parole de Dieu nous invite au contraire à ne pas croire que nous pouvons être sages à nos propres yeux. En d'autres termes, c'est pas parce que tu trouves que quelque chose est vrai que c'est vrai. Ce n'est pas parce que ta sagesse humaine, terrestre, valide quelque chose dans ta tête que c'est nécessairement bon. Au contraire, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. En d'autres termes, ça veut dire ne te fie pas à ton propre jugement, mais demande à Dieu quelle est la vérité. Ne pense pas que tu peux définir toi-même la vérité. Respecte la vérité que Dieu te donne, que Dieu te dit, parce que Dieu, lui, a des vérités à te donner. La parole de Dieu nous montre même que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos vérités, les vérités de notre pensée ou de nos émotions ou autres, parce que notre cœur est tortueux. Notre cœur est mauvais. Il y a des mauvaises choses dans nos cœurs. Et donc nos cœurs peuvent produire des vérités qui ne sont pas bonnes pour nous. Ce n'est pas parce que, à tes yeux, telle attitude est juste qu'elle l'est. Ce n'est pas parce que j'estime que là, me mettre en colère est une bonne chose, que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que j'estime qu'une chose est bien, qu'elle est nécessairement bien et bonne pour moi. Ce n'est pas parce que je trouve que tel principe de vie que j'ai entendu est alléchant, qu'il est conforme au plan de Dieu. Nous avons besoin de laisser Dieu nous dire ce qui est bon. Nous avons besoin de laisser Dieu nous dire des vérités. Parce que c'est lui le Créateur qui sait de quelle vérité nous avons besoin. Le Créateur, quand il nous a fait, il sait exactement ce que nous devons faire, comment nous devons vivre. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il nous donne des repères dans sa parole pour que nous puissions vivre d'une façon qui le glorifie. Ce que Dieu dit comme étant bon, je le prends comme bon. Ce que Dieu dit comme étant recommandable, ce que Dieu me recommande, je m'y attache. Ce que Dieu me dit comme étant interdit, je ne le discute pas, je ne le remets pas en question, mais je crois que ce Dieu est un Dieu de vérité et je veux accepter et accueillir ces vérités dans mon cœur. Nous sommes appelés à faire de la vérité de Dieu la vérité qui va conduire nos vies. Positivement, nous sommes appelés à faire de la vérité de Dieu la référence qui va structurer, élever et embellir nos vies, même si cette vérité s'oppose à notre logique, à nos propres yeux, à nos propres regards. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable d'aimer son ennemi. C'est pas logique, c'est pas raisonnable, mais c'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit que je dois aimer mes ennemis. Ceux qui me détestent, ceux qui m'insultent, je dois les aimer, je dois prier pour eux, me dit l'Écriture. Ce n'est pas logique pour moi, ça ne va pas dans ma raison, ce n'est pas ma vérité, mais c'est ce que Dieu m'appelle à faire et à être. Ce n'est pas logique de se refuser à profiter du système pour remplir son porte-monnaie. C'est pas logique. Si tu trouves une faille dans le système, c'est que le système a une faille. C'est pas ta faute, c'est la faute du système. Donc si le système a une faille et que c'est pas ta faute, profites-en. Mais Dieu me dit que même s'il y a une faille dans le système, ben, je dois pas en profiter. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas raisonnable. Ça n'est pas sage à mes propres yeux. Mais c'est ce qui est bon et droit. Ce n'est pas logique de prier quelqu'un qu'on ne voit pas. Ce n'est pas raisonnable de passer une heure à parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est une voie de vérité. Et cet humanisme athée nous pousse aussi, et c'est très important, il nous réduit à nos sens. Ce que je peux voir, ce que je peux toucher, ça c'est la réalité. Ce que je vois, ce que je peux toucher, ce que je peux mesurer, c'est la réalité. Mais tout ce que je ne peux pas voir, mesurer, toucher, alors ce n'est pas la réalité. Mais la Bible me dit qu'il y a d'autres réalités. Et justement, on pourrait dire, ce n'est pas logique de combattre spirituellement. Ce n'est pas raisonnable de dire, Seigneur, nous te prions de chasser des démons, de chasser des dominations. C'est pas logique, c'est pas raisonnable, on les voit même pas. Et pourtant, la vérité de Dieu, c'est qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Ce n'est pas logique de donner de son argent pour aider des missionnaires qu'on n'a jamais vus. C'est pas raisonnable. Ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable de s'abstenir de nourriture pour se rapprocher de Dieu. Les croyants qui jeûnent et qui ne mangent pas, ils se font du mal. Hein. Mais c'est logique et c'est raisonnable aux yeux de Dieu. L'humanisme athée peut aussi avoir des conséquences dans notre vie chrétienne. Par exemple, et ça c'est quelque chose auquel on doit toujours être attentif, l'humanisme athée peut nous conduire, cet environnement ambiant qui peut rentrer en nous, à baser notre relation avec Dieu sur nos ressentis. Sur nous et nos ressentis et ce que ça nous procure à nous. En d'autres termes, il peut nous amener à centrer la relation avec Dieu sur nous. À devenir le centre de notre relation avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on en arrive à prêcher ce qu'on appelle parfois un évangile de prospérité, c'est-à-dire un évangile qui met au cœur de la vie de l'homme son propre bien-être. On met au cœur de l'évangile le bien-être de l'homme, le bien-être de notre corps, d'avoir tout ce qu'il nous faut, d'être bien sur tout rapport, mais on met de côté les réalités les plus essentielles, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. On met tout cela de côté et on se centre juste sur ce que je peux obtenir. Qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Et dans notre relation avec Dieu, ça peut nous conduire aussi, parfois, à faire de Dieu un petit chien qui doit juste répondre à nos besoins, à nos projets, à nos envies, et qu'on ne suit que lorsqu'il correspond à ce que nous lui demandons. La Bible nous invite à pouvoir revoir nos conceptions, à prendre conscience de l'effet de toutes ces pensées autour de nous, du système qui nous entoure, pour pouvoir revoir nos conceptions. Et par exemple, La Bible nous invite à avoir une juste conception de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est d'être créé à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous avons une dignité, une grandeur qui vient du fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et lorsque nous nous coupons de Dieu, nous nous coupons de celui à l'image duquel nous avons été faits. Et nous perdons nos repères. Dieu a fait l'homme à son image. Et c'est dans une relation avec Dieu que l'homme peut trouver sa vraie identité. En d'autres termes, si je veux répondre aux grandes questions existentielles de ce monde, je dois me référer au créateur de ce monde et au créateur de l'homme. Le créateur peut me dire pourquoi il a fait des humains, pourquoi il a fait des animaux, pourquoi il a agencé les choses de cette façon, pourquoi il a fait le couple. Le créateur peut me dire tout ça. Quand je me ramène, quand je me rapporte à mon créateur, je peux comprendre mon identité, ma mission. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes porteurs de son image. Et c'est quand on comprend cette notion qu'on peut comprendre aussi la grandeur de l'homme, de sa responsabilité dans le monde, de ce qui, comment il a été fait par Dieu. Nous sommes appelés également, en tant que chrétiens, à pouvoir nous décentrer de cette philosophie qui nous envahit et à ne plus être le centre du monde, mais à laisser Dieu être le centre de notre monde. À ne plus être nous sur le trône, mais à laisser Dieu être réellement sur le trône. La vie chrétienne biblique, elle n'est pas centrée sur moi, mes envies, mais elle est centrée sur Dieu, sur sa gloire, sa puissance. Et le monde entier n'a pas d'autre origine et pas d'autre fin qu'en Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. C'est de lui et pour lui que sont toutes choses. Nous sommes des êtres créés pour rencontrer le Dieu pour qui toutes choses ont été faites. Toutes choses n'ont pas été faites pour nous, elles ont été faites pour sa gloire. Et du coup, dans nos vies chrétiennes aussi, Dieu doit récupérer le centre. Et c'est comme dans un culte, il doit être le centre. Pas ce que je ressens, pas mes envies, pas celles de l'autre. Il doit être le centre de notre vie, de notre attention, parce que tout a été fait pour lui. C'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses sont faites pour lui. Nous sommes appelés à nous recentrer entièrement sur la gloire de Dieu, mais bien plus. La vie chrétienne doit être centrée sur Dieu, mais bien plus. La vie chrétienne doit reconnaître que le bonheur et la délivrance de l'homme n'est qu'en Dieu. Le bonheur et la délivrance de l'homme n'est qu'en Dieu. Et nos concitoyens ont besoin de le savoir. Le bonheur et la délivrance de l'homme ne sont qu'en Dieu. L'humanisme centre les besoins de l'homme sur sa vie physique et sur son bonheur. L'Évangile nous révèle les véritables besoins de l'homme. L'humanisme ne connaît pas les vrais besoins de l'homme. Il connaît les besoins que l'homme manifeste. Mais les véritables besoins de l'homme, seul l'Évangile peut nous les faire connaître. Premièrement, l'être humain a besoin de pardon. Et il faut que nos concitoyens l'entendent, le découvrent. L'homme a besoin de pardon. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin d'être pardonnés de nos fautes pour être réconciliés avec Dieu. J'ai besoin de pardon. Qu'on soit diplomate, qu'on soit électricien, qu'on soit astronaute, philosophe, quel que soit notre état, nous avons besoin d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le vrai besoin de l'homme. L'homme a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Qu'on soit chinois, qu'on soit afghan, qu'on soit gabonais, qu'on soit hongrois, italien ou juif, on a besoin d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu. Que l'on soit une personne sympa de nature, comme beaucoup d'entre vous, ou qu'on soit une personne un peu renfrognée, comme beaucoup d'entre vous. On a besoin d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. Et nos concitoyens doivent entendre que leur vie ne va pas aller bien juste parce que ils sont en bonne santé. Oui, c'est important que dans leur famille tout va bien, que leur maison ça va, la véranda est là et tout va bien. Mais au-delà de tout ça, et plus fondamentalement, j'ai besoin de pardon. Et il n'y a que l'évangile qui peut leur faire savoir ça. Deuxièmement, l'homme a besoin de régénération. L'homme a besoin d'une nouvelle vie, de naître de nouveau. Et Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les êtres humains ont besoin de naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Nous devons donner nos cœurs à Christ, nous devons reconnaître nos péchés et devenir des nouvelles créatures en lui. En recevant son pardon, en recevant sa vie, nous pouvons devenir des nouvelles créatures. Nous avons besoin d'être transformés en profondeur, dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous avons raison de travailler en tant qu'humains à améliorer les lois, les structures, les entreprises, la technologie. Nous avons raison et il faut prier pour ça. Mais nous ne devons pas nous tromper. On peut changer toutes les structures qu'on veut, toutes les lois qu'on veut, toutes les organisations qu'on veut. Si les hommes ne changent pas dans leur cœur, le monde ne va pas changer. C'est pas parce qu'on va faire des nouvelles fusées ou quoi que les guerres vont s'arrêter. Tout cela, ça a pour origine le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a les guerres, qu'il y a les méchancetés, qu'il y a les adultères. Tout cela, c'est dans le cœur de l'homme. Et donc, nous avons besoin non pas de changer la structure du monde, comme diraient certains humanismes. On n'a pas besoin de changer juste les conceptions que l'on a comme ça. On a besoin d'un changement en profondeur, de devenir des nouvelles créatures en Jésus-Christ, créées par Dieu pour des œuvres bonnes. Dieu dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Ton voisin, c'est de ça dont il a besoin. Pas seulement d'une nouvelle voiture. S'il en a une, c'est bien. Mais d'un cœur nouveau. Vous devrez dire ça aux gens. Vous voulez pas un cœur nouveau? Parce que Jésus peut vous en donner un nouveau cœur, une nouvelle nature. Troisièmement, l'homme a besoin d'une espérance. L'homme a besoin d'une espérance. L'homme a besoin de savoir où il va et ce qu'il y a après. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour que nous puissions avoir une illumination de nos cœurs pour voir quelle espérance s'attache à notre appel. Les humains ont aussi besoin d'une espérance. Une espérance certaine, vivante, éternelle. L'espérance de pouvoir, pour toujours, vivre avec Dieu, vivre dans sa gloire et le contempler. Quatrièmement, l'homme a besoin d'une véritable connaissance. Et l'humanisme promeut beaucoup la connaissance, connaître, rechercher. Et c'est très bien, il faut continuer. Mais l'homme a besoin d'une connaissance plus importante que cela. Premièrement, l'homme a besoin de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai besoin de connaître, pas connaître comme dans un bouquin, nous avons besoin de connaître intimement Dieu et intimement Jésus-Christ, d'avoir une relation avec Dieu et avec Jésus-Christ. Ça, c'est un besoin essentiel de l'homme. Et puis l'homme a aussi besoin de connaître la pensée de Dieu. La Bible nous dit que nous, les croyants, au travers des Écritures, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la pensée, la vérité de Dieu. L'homme en a besoin de la vérité et de la pensée de Dieu. Et l'homme a aussi besoin de la révélation de l'amour de Dieu. Tout homme, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, a besoin de découvrir que Dieu l'aime. D'un amour infiniment grand, infiniment étendu. Tout homme a besoin de savoir que Dieu le regarde avec amour, avec compassion, avec grâce. Tout homme a besoin de savoir que Dieu le regarde avec miséricorde, que Dieu l'appelle à lui. Tout homme a besoin de savoir qu'il y a un amour de Dieu autour de lui, qui le cherche, qui l'appelle, et que tout en nous peut être comblé par l'amour de Dieu. Bien sûr, on a besoin d'une tartine pour se nourrir. Bien sûr, on a besoin d'un toit. Mais le plus profond du plus profond du plus profond de nos êtres doivent être rencontrés par l'amour de Dieu. Nous en avons tellement besoin. Ainsi donc, nous autres qui avons découvert Jésus-Christ. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser tromper par ce monde, par cette philosophie ambiante qui nous centre sur nous-mêmes, nos besoins, notre corps, la réalité, le matériel, l'aujourd'hui, mais à prendre conscience de nos besoins spirituels et des besoins spirituels de nos compagnons, de nos voisins, des gens autour de nous, de savoir que c'est au fond cela dont on a besoin. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas seulement besoin de pain, j'ai besoin de connaître Dieu, j'ai besoin de le découvrir, j'ai besoin de marcher avec lui. Et c'est ce que nos concitoyens doivent entendre. Nous devons donc être d'accord ensemble de laisser tomber cette citerne crevassée qu'est l'humanisme athée pour nous recentrer sur Dieu véritablement, réellement, parce que lui sait exactement quels sont nos besoins. Amen.